Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est quelqu'un d'intelligence suprême. Et après, sur le terrain, suprême, quelqu'un qui est aussi attachant.
Parce que... On va se calmer.
Ah non, mais, il a un QI qui est largement au-dessus du tien, Fred.
Normand, moi, d'origine.
T'es d'où, toi, Polo ?
La famille, c'est Saint-Lô.
Ah, c'est juste à côté.
Une ville nouvelle.
C'est juste à côté. On leur a mis 4-0 en championnat, c'est cadeau.
Pépé, t'avais les mains comme des raquettes, Pépé. Et quand je te faisais les ongles, il y avait des ongles à ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg, mais toi, t'avais pas besoin de Scott.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Génération After, spécial Drôle de Dame, l'émission qui peut vous parler du Hertha Berlin et de Paolo Conte, de Paella et d'Harry Kane. Bref, 2 heures consacrées au foot et à la culture européenne, même pendant la quinzaine de tennis à Roland-Garros. Pour l'Espagne, le Henri Lecomte du lundi soir, aussi talentueux qu'émotif et dont on n'a jamais vraiment compris son jeu. Bonsoir Fred Hermel.
Et peut-être un petit peu dans Bon Point aussi.
Hola chicos.
T'as raison.
De ressemblance physique aussi. Pour l'Angleterre, le Stefan Edberg du lundi soir, élégance et fair play, une confiance parfois excessive en son jeu. Bonsoir Julien Laurence.
Bonsoir Nico, salut à tous. Stefan Edberg, service volé, ça me va très très bien.
Tout à fait. Pour l'Italie, le Fabrice Santoro du lundi soir, expert du jeu, mathématicien du cours. Bonsoir Johan Crochet.
C'est beau. Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous.
Et pour l'Allemagne, Ivan Lendl du football, bien sûr. Aussi peu souriant que pointu, fascinant et agaçant avec son jeu vintage. Paulo Breckner, bonsoir.
Bonsoir mon cher Nico, très bon choix avec Ivan Lendl évidemment.
Je savais...
Et un autre malheureusement disparu, Vitas Gerulaitis. Ça
oui.
C'était pour les plus anciens.
Alors les gars, vos 3 points de week-end, que s'est-il passé ? De quoi allez-vous nous parler ce soir ? Je commence avec toi Fredo.
Eh ben moi je vais vous parler du bas du classement parce que c'est ce qui compte en Espagne. Malheureusement le haut, il n'y a pas eu beaucoup de suspense cette saison. Le bas du classement, c'est 6 équipes pour une place de descente et ça le week-end prochain va être incroyable en Liga. Malheureusement, j'insiste pas par le bas. Il n'y aura pas l'Espagnol qui est le deuxième officiellement en deuxième division après Elche ces dernières semaines. L'Espagnol qui a subi, je pense, l'un des plus grands scandales arbitrales de ces dernières années en Espagne après son match nul à Valence. Et à cause de l'arbitre, plutôt de l'incompétence des arbitres, l'Espagnol n'aura pas l'occasion d'essayer de garder sa place en première division la semaine prochaine.
Julien.
On va parler d'Everton qui s'est maintenu au bout du suspense hier et qui a envoyé en championship en deuxième division Leicester et Leeds. On va parler d'Harry Kane qui fait une saison magnifique mais malheureusement qui n'a pas suffi à Tottenham pour accrocher une place européenne après 9 ans en Coupe d'Europe. Luton, le promu incroyable, eux qui jouaient encore en 5e division il y a quelques années, on parlera aussi de ça. Et puis un peu sur Manchester United aussi qui fait quand même une saison assez magnifique.
Polo.
Bon, évidemment, on va revenir sur ce dénouement incroyable en Bundesliga et ce titre du Bayern, ce 11e à la suite à la 89e minute. Mais évidemment, on va ouvrir un dossier sur pourquoi est-ce qu'on a débarqué Oliver Kahn et Salihamidžić. Ça, c'est extraordinaire ce qui se passe. Je peux vous assurer qu'en ce moment, il y a des papiers qui sortent en Allemagne partout avec des moments croustillants d'écriture pour expliquer ce qui est en train de se passer. On va revenir aussi, évidemment, sur le Borussia Dortmund parce que comment peut-on se relever de cette claque subie ce week-end alors que c'était la meilleure équipe à domicile. Et puis on va faire un petit focus sur un club qui pour la première fois va monter en première division, c'est évidemment Heidenheim avec cette finale extraordinaire qui s'est passée ce dimanche. Voilà.
Les 3 points d'Yohan.
On va beaucoup parler de la Juve ce soir et notamment d'un grand chantier cet été. J'appelle à la rénovation totale de la Juve, de la direction sportive à l'entraîneur en passant par les joueurs. Il y a vraiment un très très gros chantier à faire de ce côté-là. On va parler des 3 finales italiennes à venir en Coupe d'Europe avec la fameuse grande question: est-ce que le football italien a retrouver son grand niveau d'antan? Pas si sûr. On va dire un petit mot d'Olivier Giroud également et puis du match du week-end avec un scénario complètement dingue à Monza.
Voilà pour vos 3 points qu'on va développer dans un instant jusqu'à 22h. À 22h, le Guy Forget de l'After sera avec nous. Gilbert Bribois, bonsoir.
Pourquoi Guy Forget ?
Je sais pas, il y a un truc, je trouve la longueur, forme d'élégance aussi peut-être.
Ah oui, tu ressens à Guy Forget.
Il tutoie les sommets, hein, qui était top 5 mondial, Guy Forget.
Bon, d'accord. Alors.
Et puis, il était patron de l'équipe de France.
Enfin, la capillarité aussi.
Voilà. Ouais. Et toi aussi, t'as une âme de patron.
Patron, quoi. Ouais. T'es patron de Roland Garros, de Bercy.
C'est vrai que j'ai plus un air de Guy Forget que de Yannick Noah. Je veux bien l'entendre. Je veux bien l'entendre. Alors. 22h, Daniel Riolo est là et il revient de week-end, il est chaud. On va parler des grandes manœuvres qui s'annoncent au PSG, Daniel veut en parler. Tudor qui devrait donc a priori quitter l'OM, mais l'OM doit-il tout faire pour le garder? Vous aviez au 32-16, Flo Gautreau sera là également, lui veut parler du maintien, il estime que c'est Nantes qui va se maintenir, il va falloir qu'il sorte les arguments. Et puis qui sera le cocu de l'Europe? Est-ce que ce sera Lille? Est-ce que ce sera Rennes? Est-ce que ce sera Monaco? Là aussi débat. Sans oublier Mbappé qui veut rester, qui reste un an de plus au PSG, mais enfin bon, est-ce que en gros prend pas un peu le club en otage, enfin qu'est-ce que vous pensez de sa déclaration, parce que ça sous-entend qu'il voudrait partir libre, c'est un problème quand même pour Paris. On en débattra là aussi tout à l'heure entre 22h et minuit, à tout à l'heure
Gilbert, à partir de 22h à 20h45 votre rendez-vous, les drôles dames face aux auditeurs, vous faites le 32-16, Max est là, posez vos questions à Fred, Julien, Polo et Johan, et elles y répondront. Le tennis également, c'est Roland Garros bien sûr avec Julien Taxis, bonsoir Julien.
Oui, bonsoir Nico, bonsoir à toutes et à tous. Deux Français sur les cours actuellement, ce sont les deux petits prodiges que l'on attend comme la relève du tennis français. Arthur Fils face à Davidovich Fokina sur le cours Simone Mathieu. On est dans la quatrième manche, ça se complique très largement pour le tout jeune Français qui a remporté, on le rappelle, le tournoi samedi à Lyon. Peut-être un petit coup de moins bien physiquement, il commence à s'énerver, à s'agacer et il est mené 4-3 avec un break pour l'Espagnol dans le quatrième set. Luca Vanlache, ça c'est sur le cours numéro 14, vient de démarrer son match face à l'Italien Marco Cecchinato, demi-finaliste, on le rappelle, il y a quelques années, en 2008, ici même à Roland-Garros. Ça a bien démarré pour Luca Vanlache, 19 ans, vainqueur à Roland-Garros Junior 2021. On le rappelle, 3-1 dans la première manche avec un jeu marathon, le troisième jeu du match qui a duré quasiment 15 minutes. Voilà, ça donne le ton de cette rencontre entre le jeune Français et l'Italien.
À tout à l'heure. Julien, Polo, quel samedi de feu en Bundesliga. Il aura donc fallu attendre la 89e minute de la dernière journée pour connaître l'identité du champion d'Allemagne, et le champion c'est un club en crise, le FC Bayern.
Non, mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé ce samedi, on n'avait pas vu ça depuis des années évidemment, mais puisqu'on a beaucoup parlé de tennis depuis le début, je pense qu'on pourrait peut-être inventer l'expression, tu sais qu'il y a petit bras, jouer petit bras lorsqu'on a une balle de match pour soi, etc., contre un adversaire,
on pourrait peut-être gagner.
La peur de gagner, avoir les petites jambes, je ne sais pas si ça existe ce mot-là, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé sur les dernières journées, c'est que celui qui pouvait gagner le titre a juste profité à chaque fois de l'erreur des autres. Et c'est ce qui s'est passé avec le Bayern Munich, parce que c'était une énorme surprise ce qui s'est passé évidemment au Westfalenstadion, et le fait que le Borussia Dortmund ne remporte pas sa rencontre contre Mayence. Et on savait que Cologne donnerait tout pour essayer d'embêter le Bayern Munich. Rappelons qu'à la 89e minute, il y avait 1-1 entre les deux équipes, et donc que le Bayern se retrouvait à un point derrière le Borussia Dortmund. Et puis on a évidemment Moussiala, qui était un petit peu moins bien ces dernières semaines, qui rentre et qui met un but extraordinaire à la 89e et qui donne le 11e titre à la suite du Bayern Munich. En plus, à la mi-temps, on apprend, même si c'est pas confirmé, Bild, Kicker, etc., qu'il se passe des choses dans les bureaux de la Zabenerstrasse, comme quoi Oliver Kahn et Salimicic qui étaient à Cologne allaient être débarqués. Oliver Kahn, lui, n'était pas à Cologne. On apprendra par la suite qu'on lui avait interdit de se déplacer à Cologne. Dingue. Donc il s'est passé plein de choses. Les joueurs n'étaient pas au courant à ce moment-là exactement ce qui se passait. Et d'ailleurs, je vous conseille de lire un article extraordinaire de la Süddeutsche Zeitung, qui est un journal bavarois, plutôt centre-gauche et qui aime bien taper sur le Bayern Munich et qui donne des informations croustillantes sur ce qui s'est passé, le plan mis en place par Uli Hoeneß, etc., depuis quelques jours, en discussion évidemment avec d'autres personnes. Mais au-delà, et si on reste sur le sportif, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Moi, je compare ça à l'année 2000. À l'époque, Leverkusen, le grand Leverkusen, qui deviendra par la suite Leverkusen, évidemment, était mené avec 3 points d'avance sur le Bayern Munich, qui se déplace à l'époque à Unterharing, qui était un promu qui n'avait plus rien à espérer, et Leverkusen, qui avait dominé le championnat, trouve le moyen de s'incliner à Unterharing. Le Bayern bat Brême 3-1 de mémoire et l'emporte le titre. On est un peu dans ce scénario-là complètement fou qui s'est passé. C'est génial évidemment pour le public de la Bundesliga parce que ça fait un scénario de fin de rencontre. Donc voilà, faut résumer. Le titre 2023 a été décidé à la 89e minute de la dernière journée, ce qu'on n'avait pas vu depuis Mathusalem en Bundesliga. Bundesliga. La seule chose qu'on peut dire, et ça on en avait parlé aussi dans l'after, c'est qu'à l'époque je vous dis oui, ça va se finir à peu près vers 75 points, et c'est pour ça que je vous parle peut-être d'avoir les petites jambes. Finalement c'est 71 points, c'est l'un des plus faibles montants de points de l'histoire de la Bundesliga. On est revenu en 2010 avec Van Gaal qui l'emporte avec 70 points, 69 points l'année d'avant avec Wolfsburg, la surprise en 2009. Tout ça fait que il y a beaucoup de choses à dire, mais le summum sportif a été atteint, c'est ce qu'on veut voir évidemment chaque saison.
Summum émotionnel, exactement.
Émotionnel, quoi. C'est extraordinaire parce que personne ne s'attend. Parce que faisons un petit aparté avec le Borussia Dortmund, comme ça on va traiter directement les sujets. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Tout le monde s'attend à ce que le Borussia Dortmund mette une raclée à Mayence. Il se fait que ça se marche pas. 1-0 pour Mayence. Oh, penalty pour le Borussia Dortmund. On va se dire Sébastien Haller qui plantait doublé sur doublé depuis les deux dernières journées. Bon, on va dire allez, ils vont égaliser, puis ça va se faire, ça va le faire après. Non, il rate le penalty et tu te rends compte que la peur de l'événement, Borussia Dortmund incapable de jouer le jeu qu'il faisait depuis les matchs retour et qui finalement est mené 2-0, revient à 2-2 dans les arrêts de jeu, mais c'est trop tard. Mais c'est fou ce qui s'est passé, c'est-à-dire que on a vu, moi j'aime beaucoup ce qui s'était passé à l'époque, hein, parce que Julien est là en Angleterre, où on parlait, tu sais, des jeunes d'Arsenal contre les aguerris de Manchester United lorsque United dominait le championnat anglais. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu veux de plus donner comme avantage au Borussia Dortmund que le fait d'être en tête à jouer à domicile, toi qui es la plus forte équipe de cette
équipe
saison,
qui ne joue absolument rien en face,
qui
en
ne
plus.
Joue plus rien, qui s'entend bien avec le club du Borussia Dortmund, et d'ailleurs qui sont critiqués, on en parlera un peu plus tard aujourd'hui, comme s'il fallait laisser le match, évidemment le titre au Borussia Dortmund. Mais c'est extraordinaire, qu'est-ce que tu veux de plus pour avoir, et donc en fait ça repose la question, mais finalement les fabuleux losers, ils ont été fêtés d'ailleurs après la rencontre, on peut aimer ça,
c'était impressionnant,
du Borussia,
hein.
C'était impressionnant,
mur jaune, là,
c'est dingue.
Ah ouais. Mais moi je trouve quand même que c'est limite, parce que ce sont des sportifs de haut niveau. On a le droit peut-être de dire que c'est une faute professionnelle. Ce sont des joueurs, il y a quasiment que des internationaux, des grands internationaux, Marco Reus, Mats Hummels, champion du monde, etc. Emre Can, si tu veux, des grands espoirs comme Bellingham.
Mais comment t'expliques la mansuétude des supporters du Borussia? Je comprends pas. Pourquoi ils fêtent ce titre qui leur échappe, en tout cas ce titre non glané, qui leur échappe pourtant depuis 2012.
Parce qu'ils ont aimé la saison.
Ils ont aimé la saison.
Ils ont aimé la saison. Ils ont aimé Edin Terzic, évidemment, ce qu'il a fait. Vous l'avez vu pleurer à la fin de la rencontre et tout ça. Parce que il est évident, si. Moi, je suis, les gars, on fait le bilan en début de saison. On se dit, bon, que va faire le Borussia Dortmund? Borussia Dortmund a perdu Haaland. Le Bayern Munich, il est là, tranquille, il a ce Nagelsmann pour la deuxième saison. On se dit, ça va être tranquille pour le Bayern cette saison. Ouais. Il faudra le reconstruire. Et d'ailleurs, à la mi-temps, enfin, quand je dis à la mi-temps, à la mi-saison, le Borussia Dortmund n'est que sixième au classement et on sait même pas s'il va se qualifier pour la Ligue des Champions. Les matchs de Ligue des Champions, d'ailleurs, sont très moyens. Il n'y a pas de grand Borussia. On en a souvent parlé. Oui, j'aime beaucoup l'équipe, la polyvalence, mais ça fonctionne pas comme on veut. Dans les attaques placées, c'était pas terrible, hein, cette saison. Le Borussia Dortmund. Et puis, tu as la deuxième partie de saison qui est extraordinaire. Le Bayern qui commence à tousser un petit peu. Il passe devant, hop, et les autres qui repassent devant. On fait les erreurs, on perd les matchs qu'il ne faut pas. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Stuttgart ou le penalty non accordé, par exemple, à Bochum, etc. Le Bayern perd la semaine dernière un match que tout le monde disait c'était pour lui et Leipzig en profite pour aller en Ligue des Champions. Ça a été ça toute la saison. Et à la fin, on finit qu'avec 71 points. Donc, ça veut dire que le baromètre émotionnel a été génial. Maintenant, est-ce qu'on a un grand champion au sens de ce qu'on a vu sur les 10 dernières années? Moi, je dis attention à ça. Il va falloir faire le véritable bilan de ce qui s'est passé. Maintenant, c'est terrible pour le Borussia Dortmund, pour Edin Terzic, évidemment, qui est un enfant du club et qui a poussé cette équipe jusqu'au bout. Moi, honnêtement, quand je prends du recul et que j'évite d'être trop dans l'émotionnel par rapport à ça, j'estime quand même que c'est une erreur. C'est
mais
presque une
oui,
faute
bien
professionnelle.
Sûr, quand t'as un cadeau qui tend les bras comme ça, tu dois le saisir. Un mot sur l'avenir Thomas Tuchel, bien sûr. La question peut se poser après les élections d'Oliver Kahn et d'Hassan Salihamidžić. Est-ce que ça met en cause son avenir?
Non, lui, il est très content là-bas. Moi, j'ai vu des articles comme quoi. Alors, je vais pas encore taper.
Mais pas de
taper.
Son fait, hein. Est-ce que...
Non. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Il a une phrase très, très juste après. Il dit évidemment ce qu'on a entendu, parce qu'une fois que le Bayern est officiellement champion à Cologne, évidemment, la presse sort l'information comme quoi Kahn et Salihamidžić ont été démis de leurs fonctions. Et évidemment, ça touche les joueurs à ce moment-là, etc. Et Thomas Tuchel, on dit oui, mais ce qu'on vient d'apprendre de ce qui s'est passé à Munich, évidemment, ça jette un doute, un froid sur le titre et tout ça. Et puis, n'oublions pas que Salihamidžić et Oliver Kahn, c'est eux qui ont fait venir Thomas Tuchel. Donc, la situation pourrait être compliquée. Mais entre dire ça, alors que lui, il est très content d'être au Bayern. Rappelons quand même que c'est un swap, il est du coin, faut pas l'oublier non plus. Les déclarations, une fois de plus, de Didier Hamann. D'ailleurs, mon cher Julien, si tu pouvais trouver un boulot pour Didier Hamann, qu'il arrête de
commenter... Lui, il annonce carrément que c'est fini pour Thomas Tuchel.
Non, donc, mais c'est faux, mais c'est archi faux.
Catastrophique.
Mais c'est catastrophique, mais il change d'avis, il a passé son temps à critiquer le Bayern. Lui, c'est un ancien joueur du Bayern, mais il ne faut pas l'oublier. Il a critiqué la méthode, les méthodes pour avoir licencié Kahn et Salihamidžić, alors qu'il passait son temps à critiquer Kahn et Salihamidžić lorsque eux deux étaient encore en place. Donc, il faut arrêter 5 minutes. Moi, Didier Hamann, je le renvoie en première ligue, il n'y a pas de souci, trouve-lui un boulot là-bas. C'est insupportable de l'entendre sur Sky, de faire comme ça des petits trucs. Il n'y a aucune raison que Thomas Tuchel ne soit pas content d'être au Bayern Munich. Il va d'ailleurs ressortir quelque part comme l'homme fort de la situation, parce que lui, il récupère une situation, ne l'oublions jamais.
Il est champion d'Allemagne, hein, Thomas Tuchel.
Il finit champion d'Allemagne. Oui. Voilà, c'est la première fois de sa vie.
Voilà pour ce mano mano, hein, qui se termine par la victoire finale du FC Bayern. Dans un instant, on va parler de la course à l'Europe en première ligue. On sera également dans la course au maintien en Liga passionnante. Ce sera ce week-end avec Fred Armel. D'abord le tennis, un Français en moins dans le tableau principal à Roland-Garros, Julien Taxis.
Et oui, un de plus ou un de moins, très précisément. Arthur Fils, fin de l'histoire pour son premier Roland-Garros. Il a été dominé assez nettement, finalement, en trois manches par la tête de série numéro 29, l'Espagnol Davidovich Fokina, 6-1, 4-6, 6-3, 6-3, Davidovich Fokina, qui retrouvera au prochain tour le vainqueur du duel qui se passe en ce moment même entre Luca Vanlash et Cecchinato. Et là, bonne nouvelle pour les Français, ça se passe plutôt bien pour Luca Vanlash, qui a remporté la première manche, 6 jeux à 1. Un troisième Français sera sur les cours dans quelques instants, Alexandre Muller face à Yannick Sinner en light session sur le central.
La suite de Génération After avec les 4 drôles de dames. Merci d'écouter RMC 20h16, à tout de suite.